De séance consacrée aux chefs-d'œuvre, aux inconnus. J'ai l'impression que ça c'est de plus en plus clair le soir.
Oui.
Vous allez voir.
Dans un quart d'heure.
Alors, vous connaissez nos petites règles que je vous dis à chaque fois, mais que je vous redis et que vous connaissez par cœur. Et bien entendu, aujourd'hui, nous allons regarder une œuvre également. Très célèbre, un de ces chefs-d'œuvre plus ou moins connus que je vous destine durant ces séances. C'est peut-être pas d'ailleurs l'œuvre la plus célèbre que celle-ci. Enfin, je pense que tout le monde ici la connaît. Enfin, je peux me tromper, hein. Parce que cette œuvre, c'est. Bon, je me suis pas trompé, parce que. Non, j'ai un peu le trac hein, parfois. Hein. Il s'agit des Ménines de Velázquez. Bravo, bien. Alors, voilà, séance se termine là, parce que vous savez ce dont il s'agit. Mais on va peut-être quand même un peu en parler avant que la séance ne se termine. Parce que, pardon ?
Il est au Prado.
Au musée du Prado, absolument. D'abord, ce tableau s'appelle les Ménines, c'est-à-dire quoi ? Les Ménines, c'est quoi ?
C'est les servants.
C'est les servants, voilà. Ce sont les servantes, mais encore
naines.
Naines. Autrement dit, vous voyez des servantes naines, là ?
Oui, à droite.
À droite. Donc, les Ménines, c'est ça. C'est d'ailleurs...
Il y en a qu'une.
Alors, pourquoi ça s'appelle les Ménines, alors qu'il n'y en a qu'une ? C'est la Ménine, ça doit... Mais ça s'appelle les Ménines, c'est vous qui l'avez dit.
Ça veut dire petit, donc...
Hein ?
C'est peut-être les deux autres jeunes,
oui. D'autres jeunes, alors.
C'est-à-dire
ces deux autres jeunes-là seraient des Ménines, mais elles ne sont pas naines. Vous avez dit que les Ménines c'était des naines.
Ah. Ça coince déjà.
Ça coince déjà. Rien qu'au niveau du titre, ben nous voilà bien.
Ce sont aussi des confidentes.
Pardon ?
Ce sont aussi des confidentes.
Des confidentes. Donc Ménine voudrait dire plutôt confidente.
Oui.
Suivante.
Jeune suivante.
Donc, le terme ménine signifierait des jeunes suivantes. Autrement dit, pas forcément naines, si je comprends bien.
Oui, ça résoudrait le problème.
Pardon ?
Ça résoudrait le problème.
Et d'ailleurs, ça le résout, parce qu'effectivement, les ménines sont des personnes qui sont... allez-y. Oui, si vous voulez, bien sûr, oui. Les ménines sont effectivement des suivantes. Ce qu'on peut appeler aussi des dames d'honneur, par exemple. Hein. Donc, en fait, les Ménines, elles ne sont pas du tout à droite, elles sont où, là ?
Partout.
Autrement dit, il n'y a que des Ménines, là.
Non, il y a des hommes.
Alors, on va peut-être, justement, regarder d'un peu plus près ce que l'on voit, pour voir où il y a des Ménines, où il n'y en a pas, est-ce que tout le monde est des Ménines ? Enfin, ouais, on va essayer de voir. Donc, qu'est-ce que vous voyez avant de... réaborder ces saisons des Ménines, qu'est-ce que vous voyez sur le tableau, finalement ? Un tableau dont je précise, mais vous le savez, hein, qu'il est de très grande dimension. Hein. Ça fait quoi, 3,52 m. Oh, j'aurais dû mettre les dimensions, j'ai jamais fait.
Il y a un chien.
Alors, il y a un chien, déjà, au premier plan. Ça va. Il y a une infante. À quel endroit ?
Au milieu.
La petite blonde au milieu, c'est une infante. Okay. Un chien, une infante. Il y a un peintre.
Qui est
Velázquez, le peintre. Donc c'est le peintre, s'est autoportraituré. Ok. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore ?
Une religieuse.
Elle est à quel endroit ? Moi, faut me dire, parce que vous savez, si on ne me dit pas tout, je comprends rien. La religieuse, elle est où ?
À droite, derrière.
Donc c'est la religieuse, ok. Ouais. Très bien.
Un homme à côté.
Très bien.
Au fond, un homme dans l'embrasure
d'une porte. Dans le miroir, il y a le roi et la reine.
Il y a un personnage là dans l'embrasure de la porte et dans le miroir. Donc ça, c'est un miroir, si je comprends bien.
Oui.
Il y a le roi et la reine. Ok. Et qui d'autre encore ?
Il y a une servante naine.
Ici.
Avec une enfant à côté.
Et le personnage, effectivement, qui s'en va.
Allez-y. Et un personnage, évidemment, qui s'en va. Bien. Très bien. Alors, maintenant qu'on a décrit qui il y avait, est-ce qu'on peut dire qui sont ces différents personnages ? Vous l'avez dit pour certains d'entre eux, là vous avez bien dit que c'était le peintre Velázquez, on est d'accord, que ça c'était l'infante, son petit nom ?
Isabelle.
Isabelle. Il y a des infantes Isabelle. Donc l'infante Isabelle, ça va à tout le monde, ça ? Oui. Allons-y pour l'infante Isabelle. Au-delà de cette infante Isabelle, que voit-on, qui voit-on d'autre ? Donc vous l'avez dit, le roi et la reine, là, dans le fond, qui se reflètent dans le miroir, leur petit nom à eux.
Isabelle Senior.
Ok.
Et Felipe.
Oui, tous les rois d'Espagne s'appellent Felipe. Peut-être un nombre derrière le prénom.
Ah,
5. Allez, Philippe 5.
4.
Qui dit mieux ? Philippe 4. Philippe 1 ou 2. Bon, un Philippe en tout cas. On va de 1 à 5, on verra si c'est bien ça. Et la reine, son épouse ? Vous parlez du roi, ok, mais enfin, il y a une reine.
Inès.
Éléonore.
Éléonore, bien aussi, Éléonore. Bon, écoutez, on verra un petit peu ces éléments dynastiques tout à l'heure. Alors, je repose ma question. Les Ménines là-dedans, c'est qui, très précisément ? Voilà, c'est les deux dames de compagnie. Hein, les Ménines, c'est ces deux personnes-là. Ça, ce sont les Ménines. Hein. Les Ménines, c'est ça. Ce sont ces deux dames de compagnie. Donc, les Ménines, ce n'est pas tout le monde. Ce sont pas... Enfin, ce n'est pas la naine à droite. C'est ces deux personnes qui entourent l'infante. D'accord ? Ça, ce sont les Ménines. D'accord ? Bien. C'est tout au niveau des protagonistes du tableau.
Celui du fond,
le personnage en fond, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de qui il peut s'agir ? Si vous avez parlé d'une nonne ici, oui, d'un personnage là et là, est-ce que vous auriez une idée peut-être ?
C'est pas le prince.
Pardon ?
C'est pas le prince.
Le prince.
Ah oui, il est là.
C'est quelqu'un qui s'était
impressionné. Un précepteur. Oui, puisqu'on a après tout l'infante, il faut bien informer cette petite infante. Bon, voilà quelques idées. Et le monsieur tout à fait à droite, là, enfin tout à fait à droite de la nonne, de la duelle.
C'est le confesseur.
Le confesseur. On a régi ensemble. Bien. Est-ce que là, on a fait le tour des protagonistes de la scène ? Oui.
Il y a l'enfant qui joue avec le chien.
L'enfant qui joue avec le chien, oui. Alors cet enfant, il a quel statut, lui ?
C'est un petit prince.
Un petit prince. Donc on a l'infante au centre et puis un petit prince à droite.
Non.
Ah non.
C'est un enfant qui accompagne la princesse et pour jouer avec elle.
D'accord. C'est donc l'enfant qui accompagne la princesse pour jouer avec elle. Okay. Donc c'est pas un prince, mais c'est un enfant...
Un enfant de compagnie.
Un enfant de compagnie. Ça va tout ça ? Il n'y a qu'à dire comme ça. C'est votre dernier prix, pas d'autres protagonistes à cette scène, pas d'autres éléments à évoquer. Bien. Pardon ? Ah, la collection de tableaux. Il y a effectivement une collection de tableaux. Et alors, vous en diriez quoi ?
Pas grand-chose, on voit rien.
Bon. Mais pourquoi ça vous paraît intéressant de parler de la collection de tableaux ? Peut-être des tableaux de Velázquez.
C'est peut-être dans l'atelier du peintre.
Peut-être qu'on est dans l'atelier du peintre.
Enfin, il a une drôle de position pour peindre.
Il a pris du recul.
Il est peint de dos. Hein.
Il est peint de dos.
Non, parce que s'il a pris du recul, il doit être devant. Hein.
Pardon ?
Il peint le roi et la reine.
Donc, il est. Donc,
il peint le roi et la reine.
Oui, il peint.
Donc, alors. Je ne sais pas, il peint qui le peintre ?
Le roi et la reine.
Il peint le roi et la reine.
Qu'on voit dans le miroir.
Ils sont où, autrement dit ? Ils sont là où vous êtes. Ils vous peignent, vous. C'est vous, le roi et la reine, qui est en train de peindre. Autrement dit, il peint le spectateur qui est à la place du roi et la reine.
C'est ça.
Ok, très bien. Mais je reviens au tableau. Pourquoi vous soulignez le fait, il y a des tableaux en disant, bah, c'est peut-être, on était dans son atelier, donc c'était des tableaux de Velázquez. Oui,
ça vous convient tout le monde, ça?
Ouais.
L'autopromotion.
Pardon?
C'est de l'autopromotion.
L'autopromotion, j'ai une manière de montrer ses œuvres. On est dans son atelier, il montre les œuvres.
C'est le peintre officiel de la cour.
C'est le peintre officiel de la cour. Donc, on est dans son atelier. Il fait des tableaux. Donc, il y a des tableaux sur son atelier. Voilà. Hein. Une manière de montrer son travail, d'une certaine façon. Mais ici, on n'y voit pas grand-chose, comme vous le disiez. OK ? Bien. Alors, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Finalement, au-delà du fait que ce tableau montre ça, et on va, dans un instant, voir... en levant les copies, s'il s'agit bien de ce que l'on a analysé, au-delà des personnages qui sont représentés et de ce décor de tableau qu'il y a autour, ce tableau, évidemment, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Au-delà, qui représente des gens qu'on a identifiés dans un cadre qu'on a essayé à peu près de déterminer. Ce tableau, il parle de quoi? Il dit quoi? C'est simplement des portraits dans un atelier, puis basta, quoi. Est-ce que c'est que ça ou pas?
Place aux jeunes.
Pardon? Place aux jeunes. Donc, il y a un tableau qui montre l'avenir, en quelque sorte. Oui ?
C'est un peu le peintre qui se met en avant, là.
C'est un peu ?
Le peintre qui se met en avant.
Donc, c'est une manière pour le peintre de bomber le torse, quoi. Hein. C'est lui, c'est Velázquez, quoi. Hein. C'est un peintre proche du roi, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, il montre qu'il est, quoi. C'est une sorte d'autopromotion, ce que vous disiez. OK ? Est-ce que ça parle d'autre chose, ce tableau ?
Même la princesse, elle est quand même en pleine lumière.
La princesse est en pleine lumière. Donc c'est peut-être quelque chose qui montre le peintre. Moi, ça, visiblement, ça montre la princesse aussi. Parce que c'est quand même le point focal. Hein. Elle est au milieu, elle n'est pas sur un côté, elle est en pleine lumière. Moi, ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut pas dire qu'on ne la voit pas. Hein.
Oui, d'un côté, il ne la peint pas.
D'un autre côté, il ne la peint pas. Oui, puisqu'il peint.
Il alors qu'en fait, il l'a peint.
Voilà. Alors, oui, c'est ça. Alors voilà, vous avez effectivement résumé, c'est-à-dire que le peintre, il ne peint pas la princesse, et pourtant, c'est elle qui l'a peint. On est d'accord ?
Il y a une double entrée.
Voilà. C'est effectivement un tableau, il y a une double entrée. Parce qu'il est en train de vous peindre, vous qui êtes le roi et la reine, or c'est pas vous qui le peint, c'est la princesse qui l'a peint. Et pourtant, c'est pas elle qui est censée peindre.
Mais on ne voit pas ce qu'il a fait.
Non, on ne voit pas ce qu'il a fait. Mais a priori, il fait quoi quand même?
Bah, il peint. Très normalement, il peint le prince et la princesse.
Voilà, normalement, il peint le roi et la reine, oui, qui sont effectivement devant. D'ailleurs, il est en train de regarder de leur côté. Il est seul d'ailleurs?
Comment ça, il est seul?
Est-ce qu'il est seul à regarder du côté du roi et de la reine?
Non.
Non, il y a pas mal de gens qui regardent du côté. Il y a qui?
La naine.
Il y a la naine.
La nonne et le confesseur.
Alors, la nonne, on ne sait pas trop.
Mais le confesseur.
Le confesseur a l'air. Ah oui, la nonne qui est là, vous voulez dire. Oui, ce n'est pas très évident, oui.
L'œil qui est dans l'embrasure de la porte.
Oui, le monsieur dans l'embrasure de la porte, il regarde visiblement de ce côté-là aussi. Et d'ailleurs, vous ne le voyez pas très bien, mais la ménine de droite, elle regarde de votre côté aussi. Hein. En fait, vous êtes assez surveillé. Hein. Vous êtes surveillé par le peintre, par le monsieur dans la brosure de la porte, par la naine, peut-être par le monsieur à droite de la nonne, par la ménine de droite. Le chien a l'air de dormir un peu, quand même. Hein. Voilà. Et puis aussi par l'infante. L'infante, elle vous regarde, elle regarde. C'est qui, d'ailleurs, l'infante par rapport au roi et la reine? C'est leur fille. Hein. Donc, elle regarde ses parents. Donc, effectivement, a priori, ce que Velázquez est en train de peindre, c'est le roi et la reine. Pourtant, ce n'est pas eux qui l'a peint, c'est l'infante. Donc, comme vous disiez, c'est une espèce de tableau qui a une sorte de double entrée.
Oui. Le peintre, c'est celui qu'on voit dans la fenêtre, dans la porte du fond.
Non. Ce serait ça, le peintre?
Non. Oui. Il a un pinceau.
C'est plutôt lui.
Le peintre en train de peindre cette scène-là.
Ah, c'est-à-dire que le peintre, en fait, ce serait lui.
Oui. Oui. En train de peindre tout le monde. Bah oui. Y compris lui.
Donc, en fait, on aurait deux peintres. Non ?
Oui.
C'est ça. Un peintre là et un autre là.
Oui, mais ce ne serait pas représenté une deuxième fois.
Ah non, mais c'est peut-être un autre. Ah, c'est ça que vous vouliez dire, je pense.
Ben, je veux dire que c'est le peintre qui est en train de se peindre, en train de peindre la scène. Quoi.
Ah, celui dans la porte, là-bas. Mais alors, celui-là, ça, ce serait quoi, ça, alors?
Ça, c'est lui.
Ah, d'accord, donc il se présente deux fois.
Non, il se présente une fois. Il est lui dans le fond, et puis...
Il est lui au début du tableau, et l'autre...
Donc on a le même peintre ici et là. C'est ça ?
Non. Ils n'ont pas la même.
Ça, vous n'avez pas tort, c'est un tableau qui a beaucoup fait parler. Et qui continue de faire beaucoup parler. Parce que c'est un tableau qui a l'air très simple, mais qui est finalement plus compliqué qu'il n'y paraît. D'ailleurs, votre discussion le montre bien. Hein. On va s'en dire, mais c'est des Lénines. Puis après, quand on commence à entrer dedans, on se dit, ah ben tiens, c'est pas si simple.
De dualité, hein.
Parce que finalement, les Lénines, c'est que deux des personnages, alors qu'il y en a une dizaine. C'est peut-être pas les personnages hiérarchiquement les plus importants. Hein. Enfin, les Lénines, ce n'est pas non plus des souillons qu'on. Voilà, enfin, c'est pas non plus l'infante, ni le roi et la reine. Hein. Autant le tableau a ce nom-là, qui est un nom donné plutôt par. Les regardeurs que par le peintre, sans doute. Hein. Enfin, c'est assez marrant quand même de voir qu'on a donné à Salo ce nom-là, qui n'est pas celui de l'héroïne du tableau, en quelque sorte. Hein. Donc vous disiez, je crois, avec juste raison, que c'est plutôt la petite fille au milieu. Hein. Voilà. Et c'est un tableau où le peintre, en tout cas dans cette silhouette-là, hein, avec son pinceau et sa palette devant la toile, est en train de peindre quelque chose qu'on ne voit pas, qui est vous qui regardez. Et puis, il y a le problème du statut du personnage du fond, effectivement. Hein? Bien. Qu'est-ce que ça dit d'autre encore, ce tableau? Décidément un peu compliqué. C'est un tableau qui a des tas d'entrées. Finalement, c'est un tableau qui nous propose de réfléchir à quoi?
Le fait que les personnages regardent tous, plus ou moins, c'est le respect envers le roi et la reine. Ils ne peuvent pas leur tourner le dos. Donc, du coup, comme ils sont là, ils les regardent.
Il y a sans doute de ça, c'est-à-dire on est quelquefois obligé quand même de tourner le dos au roi et la reine, mais c'est vrai que le roi et la reine focalisent l'attention. Hein. Quand on a le roi et la reine dans la pièce, et qu'ils sont ceux qui font l'objet de l'attention du prince, du peintre, pardon, on les regarde, effectivement.
Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'ombre et de la lumière.
Oui, mais encore.
Et chargé en bas de personnages et en haut très.
Très vide.
Très vide.
Oui, c'est vrai. Mais il a pas.
Opposition et.
Oui, on pourrait couper le tableau en deux. La partie supérieure, la moitié supérieure, en gros, à part les tableaux, il n'y a rien. Et la partie inférieure, c'est bourré de monde.
Sauf l'encadrement du personnage qui s'en va.
Oui. En même temps, oui, si on faisait une ligne médiane, hein, si on retirait tout ce qui est au-dessus de ma main. C'est la moitié du tableau. C'est dans la partie basse où il y a tout. Vous voyez ? Donc évidemment, c'est un tableau assez curieux parce que c'est vide en haut, plein en bas. C'est sombre en haut, clair en bas. Il y a un monde fou, enfin il y a un monde fou, il y a une dizaine de personnes assez denses. Hein. Mais le sujet est hors de la toile. Mais c'est peut-être qu'un du sujet là qui est présenté. C'est très bizarre. Donc finalement, puisque ça parle de tout ça, ça parle de quoi ?
De la cour,
certainement. Mais de manière peut-être plus, j'allais dire, philosophique, artistique, esthétique.
De la succession.
De la succession, oui, c'est la question de l'avenir dont vous parliez tout à l'heure.
Du jeu des regards.
Oui.
De la complexité.
La complexité de quoi, d'ailleurs ?
Bah, des relations, ou même des... Je sais pas, de tout ce qui se joue.
Et justement, cette complexité des relations que vous évoquez là, elle est présentée par quel support ?
Bah, le fait qu'on ne voit pas le roi et la reine, et qu'on la voit...
Alors ça, c'est la manière dont le support est utilisé, oui. Mm-hmm. Mais quel support le peintre a choisi pour montrer cette complexité sur laquelle vous parlez ?
Le miroir.
Pardon ?
Le miroir.
C'est un élément, c'est pas le seul. Il y a un miroir, il y a la toile, il y a cette porte dans le fond, la porte dans le fond avec ce personnage qui nous pose tant de problèmes. Là.
Je sais pas, vous trouvez pas un statut un peu particulier à cette
porte ? C'est pas Sirante.
Alors, on ne sait pas Sirante s'il sort.
La porte paraît.
Ça ne fait pas s'il regarde, s'il fuit.
Donc, j'ai surtout. La porte paraît petite par rapport à ta gueule. Oui. Ah oui, oui, c'est. Bah oui, il entre dans une pièce plus éclairée que celle où on se trouve, manifestement. Voilà. Mais. Qu'est-ce qui fait l'ambiguïté du statut, par exemple du miroir, ou de cette porte avec ce personnage ?
Les souverains sont quand même représentés petits, hein, par
rapport à... Oui, puis dans un miroir, voilà, un miroir du 17e, donc c'est un peu diaphane, effectivement. Hein. Oui, décidément, c'est bien, parce que les héros de la scène sont les moins visibles.
Ils sont absents, même.
Et ils sont absents. Sinon, par le reflet un peu irisé dans le miroir.
Est-ce que ce tableau a fait plaisir au roi ?
À ma connaissance, l'histoire ne le dit pas. Ça ne lui aurait pas fait plaisir, je ne suis pas sûr que je vous le montrerai aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'il ait eu... Mais manifestement, il n'y a pas eu spécialement de problème. En clair, Velázquez était très bien vu. Hein. Qu'est-ce qui montre qu'il était bien vu, d'ailleurs ?
C'est très compliqué, moi, je
trouve. Oui, c'est un mot très compliqué. C'est bien pour ça qu'il est hyper célèbre, parce que c'est un mot très compliqué. Qui parle d'une chose, à mon avis, fondamentale, mais on va y revenir. Mais qu'est-ce qui fait que Velázquez, on voit que c'est un artiste bien vu, installé.
Il a une croix sur
Oui, son... c'est quoi ça ?
C'est un ordre.
Un ordre, absolument. Voilà. Quel est le grand ordre chevaleresque d'Espagne ?
Pardon ?
Alors, c'est pas les croix, enfin, il y a des croisants d'Espagne, mais il y a un ordre, j'allais dire, militaire. Alors, c'est pas Malte. Malte, la croix de Malte n'a pas cette tête-là, si j'ose dire. Hein. C'est une croix pâtée avec les quatre pattes identiques. Hein. Non, c'est une croix un peu spéciale. Et quel est l'ordre militaire espagnol par excellence ? Et quel est le saint qui est lié à cet ordre militaire, le saint de la Reconquista, de la Reconquista ? De la reconquête de l'Espagne musulmane, en fait. Oh, vous le connaissez, parce que... Non. Oh, vous le connaissez, forcément.
C'est un saint de l'Antiquité ?
Non, enfin, de l'Antiquité.
Il a connu Jésus ou pas ?
C'est un saint...
Ignace de Loyola ?
Non. Non, vous le connaissez, parce que c'est... Je vais vous mettre sur la voie, mais là, vous allez trouver, hein. C'est un saint qui fait l'objet du plus grand pèlerinage espagnol.
Jacques.
Ça, c'est l'ordre de Santiago, Saint-Jacques. Saint-Jacques, c'est le saint de la Reconquista, le saint de la Reconquista. Hein. Donc, il a la croix de l'ordre de Saint-Jacques sur la poitrine. Donc, on voit bien vraiment que... Hein. Voilà.
Oui, mais il était plus ou moins ambassadeur, je ne sais pas quoi, Velázquez.
Oh, il a été beaucoup de choses, oui. Il a été... Bon, c'était un valet du roi, autrement dit un proche, hein, quelqu'un de l'entourage. Il s'occupait de... Je crois que le titre officiel, je peux me tromper, hein, c'était le chambellan des tapisseries royales, mais ça voulait dire qu'en gros, il s'occupait du mobilier national. Quoi, hein, c'est-à-dire, la manière dont les palais, etc., étaient décorés, c'était lui. Hein, c'est lui qui proposait les commandes au roi pour des artistes, etc. Donc il a vraiment un rôle très important. Et comme tous ces peintres, il peut effectivement, et ça c'est une vieille chose qui date du Moyen-Âge, hein, il peut parfois être utilisé dans des ambassades, pour des choses un peu particulières, quand il y a des petites choses un peu particulières à traiter, un peu mystérieuses, les peintres, les artistes peuvent être convoqués. Hein. Donc c'est un proche du roi. Hein. Ce veut dire que ce tableau a sans doute, même s'il est très singulier, hein, très original, très particulier, hein, c'est un tableau qui a certainement plu au roi, qui était très proche du peintre et vice-versa. Bien. Quelle heure est-il ? On va peut-être relever les copies ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? Vous m'avez quand même pas dit de quoi parler ce tableau. Encore une fois, quelle est, de manière très très simple, hein, mais très profonde en même temps, quel est vraiment le grand sujet d'un tableau comme celui-là ? Avec le fait que le peintre en a peint des gens qui n'y sont pas, mais qu'on voit quand même. Avec au fond, dans la glace, un portrait, mais qui est dans la glace. Avec un personnage dans une porte, qui a presque l'air d'être un tableau lui-même. C'est-à-dire que quand on regarde le fond,
on a des tas de tableaux partout, on a l'impression que ça c'est un tableau, comme tout le reste, maintenant c'est pas un tableau, c'est un miroir, et ça on a l'impression que c'est l'équivalent de ce que vous avez autour, c'est pas un tableau, c'est une pomme, on sait plus où on est, quoi.
C'est le respect des règles établies, non ?
Oui.
La complexité de la vie de la cour.
Oui.
Les relations
entre les gens. Ah, ça parle de tout ça, oui. Mais deux choses encore plus essentielles, fondamentales, et que vous avez sous les yeux.
C'est la famille.
La famille.
Dans l'enfant, pour la mariée.
Encore plus fondamental, encore plus essentiel, qui n'est pas lié à l'image, qui est lié à, au médium.
Le travail du peintre.
Voilà. Ça parle de peinture. Tout bête. Ce tableau, mais c'est beaucoup plus important que la cour, un truc, la cour d'Espagne, c'est la cour d'Espagne. Mais ça, ça ne parle pas de la cour d'Espagne. Ça parle de la peinture avec elle rampée. De qu'est-ce que c'est que la peinture ? C'est autre chose que la cour d'Espagne, à l'époque de ce roi qu'on va essayer de nommer tout à l'heure, au milieu du XVIIe siècle, ça parle de la peinture avec un grand P. Qu'est-ce que c'est que la peinture ? Ça, c'est un sujet beaucoup plus important qu'une question dynastique à un instant T, vous voyez ce que je veux dire ? La peinture, c'est quoi ? C'est celui... C'est, est-ce que c'est le reflet ? Est-ce que c'est cette espèce de trompe-l'œil avec le personnage qui est dans le fond ? Est-ce que c'est la réalité ? La réalité, là... On la voit que dans le reflet, puisque c'est vous la réalité qui êtes peint, or c'est pas vous qu'on voit, c'est l'infante. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec cette espèce de double jeu, voilà un tableau qui ne cesse de nous interroger sur finalement la peinture, c'est quoi ? Est-ce que c'est un reflet ou pas ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est ce qu'on voit ? Est-ce qu'on voit pas ? La peinture, c'est quoi ? Je dirais que c'est un tableau qui est une sorte de leçon de vie. Qu'est-ce que c'est la peinture ? Ça va beaucoup plus loin que. Voilà l'infante machine qui va succéder au roi Bidule. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est beaucoup, beaucoup plus important. Si on parle de la peinture, qu'est-ce que c'est que la peinture ? C'est un tableau fondamental là-dessus. Alors, on va quand même peut-être regarder d'un peu plus près les différents personnages. Je vous montre là le cartel. Alors, le roi, vous voyez, c'est Philippe IV. C'est pas 1, c'est pas 5, c'est 4. Donc Philippe IV et sa famille, donc on appelle les Ménines, c'est un tableau du milieu du XVIIe, 1656, ok. Alors si on regarde cette frise, comme vous le disiez bien, la partie inférieure du tableau, il y a tout le monde dedans. Alors, ça, effectivement, c'est Velázquez, vous voyez, c'est la croix de l'ordre de Santiago, c'est Velázquez lui-même. Bon, on connaît de lui toute une série, enfin, il n'en a pas fait des tonnes non plus, mais il y a plusieurs autoportraits, je vous en montre un autre là. Il est bien, donc c'est bien lui, le peintre. C'est bien lui qu'on voit dans le tableau. Là, vous voyez un autre autoportrait de lui. Elle, c'est l'enfante. Alors, ça n'est pas Isabelle. Ça n'est pas Inès non plus, d'ailleurs, comme sa mère. C'est Marguerite Thérèse. La voilà. Alors, vous la voyez là, dans un tableau qui date de 1956. C'est-à-dire la même année. De nouveau, l'enfante Marguerite Thérèse. Là, vous la voyez... 2 ans ou 3 ans plus tard, vous savez, Velázquez l'a peint, il est proche du roi, donc il l'a peint un peu tout le temps, bien, ok, là, c'est donc une des Ménines, c'est Doña Maria Agostina Sarmiento de Sotomayor, donc c'est des gens convenables que les Ménines, voilà, donc ce sont ces dames de compagnie dont on parlait tout à l'heure, et de l'autre côté, il y en a une autre qui s'appelle de manière plus courte, Doña Isabel, voilà une Isabel quand même, de Velasco. Ok ? Bien. Le chien, c'est pas son nom. J'ai été très déçu, j'espère l'apprendre. Ben non. Par contre, on connaît le nom des deux personnages qui sont là. Ça, c'est Maria Barbola, qui est une naine, effectivement. Et le petit garçon de côté n'est pas un petit garçon, c'est un nain aussi. C'est vrai qu'à la cour d'Espagne, mais pas que, était très, très accueillant pour les nains. Pourquoi, d'ailleurs ?
Porter bonheur ?
En quelque sorte. Et pour quelle raison ?
Il disait la vérité.
Alors, disons qu'il pouvait le dire, il pouvait se permettre de le faire, oui. Et pour quelle raison ?
C'était un peu les bouffons, quoi.
Ils ont donc une dimension de bouffon, mais qu'est-ce qui fait que eux, et pas les autres, peuvent se le permettre ?
Parce qu'ils ont un corps d'enfant et un esprit d'adulte.
Alors, c'est ça, il y a effectivement cette espèce de dichotomie qui fait que le corps est celui d'un enfant, l'esprit est celui d'un adulte, donc il y a une sorte d'étrangeté. Et effectivement, cette étrangeté fait, dans la culture occidentale, comme dans d'autres cultures d'ailleurs, que le nain est quelque part un être qui a une dimension, j'aimerais se dire, un peu surnaturelle. Le nain, il est particulier. Et parce qu'il est particulier, c'est en effet un adulte-enfant, c'est un être doté de certains pouvoirs. Le nain, il est spécial. Et donc, il est respecté en tant que tel. En même temps, c'est un bouffon, c'est un valet, mais un valet qui peut effectivement dire ses quatre vérités au roi. Et le nain fait partie de ces personnages qui ont une sorte d'aura autour de lui. Donc vous avez deux nains ici, dont Nicolas Pertuzat. Ok. Alors voilà effectivement la duène derrière, dans l'Arcella des Lois. Et puis le personnage qui est à droite serait peut-être, on n'en est pas très, très sûr, un écuyer de la reine. Mais bon, là, d'après ce que j'ai lu, il y a des discussions sur l'identification du personnage qui est à droite. Et puis, dans le fond, ce personnage qui est là, peint de manière incroyable d'ailleurs, hein, vous voyez, hein, on dirait un Manet, hein, c'est sans doute le chambellan. Hein. Je dis d'ailleurs, on dirait un Manet, vous savez que Manet a été très, très impressionné par la peinture de Velázquez. Hein. Donc, pas étonnant qu'on ait là quelque chose qui nous rappelle ce que Manet fera plus tard, parce que ce genre de choses a beaucoup frappé Manet. Bien. Et voilà, effectivement, là, le fameux miroir dans lequel se reflètent les effigies des souverains, c'est-à-dire Marianne d'Autriche, donc ça n'est pas Inès, mais Marianne, et Philippe IV. Alors, Marianne, vous l'avez sur d'autres portraits, hein, faits par Velázquez, hein. La voilà, hein, avec cette mode espagnole tout à fait singulière. Et revoilà un autre portrait de Philippe IV, hein. Velázquez en a fait des quantités. Je vous montre ça simplement pour qu'on comprenne bien, hein, comment, finalement, les Ménines sont un tableau qui rassemble des portraits dynastiques que Velázquez a pu faire pareil. Bien. Alors, il y a quand même un acteur qui ment dans ce que vous avez dit. Enfin, vous l'avez dit quand même, vous en avez parlé. Par contre, vous avez dit qu'on ne voyait pas très bien ce qui se passait. Et cet acteur fondamental qui occupe toute la partie supérieure, effectivement, sont les tableaux qu'il y a là. Alors, comme vous le disiez, on ne voit pas grand-chose. Hein. Alors, la photo n'aide pas beaucoup. Pourtant, ces tableaux, on a pu les identifier. Alors, je vais vous montrer les tableaux réels. Ok. Mais voilà. Voilà les deux vrais tableaux. Alors, pour être précis, le tableau que vous voyez à droite, eh bien, il y a un tableau réel. Ça, c'est en fait l'esquisse du tableau réel. Le tableau réel, à ma connaissance, ça n'existe plus, mais ça, c'est l'esquisse assez précise du tableau réel qui est représenté dans la peinture. C'est clair, ça ?
Oui. Voilà.
Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Quel est l'intérêt de s'appesantir sur ces tableaux ? Vous avez dit, Velázquez est dans son atelier, alors il fait de la pub, il y a des tableaux sur son atelier, tu veux bien de montrer son
tableau ? C'est pas lui qui les a peints.
Alors, effectivement, les tableaux que vous voyez là ne sont pas des tableaux de Velázquez. D'ailleurs, pour compliquer la chose, comme si elle était déjà suffisamment simple, les tableaux que vous voyez là, hein, qui sont donc, encore une fois, ceux représentés dans la toile, sont les tableaux originaux, mais ceux dans la toile sont des copies faites par un autre, qui s'appelle Juan Batista Martínez El Manso, qui a copié les tableaux vus en bas. Vous comprenez ça ? Voilà. C'est-à-dire que les deux tableaux qu'il y a là en haut et en grand ne sont pas des originaux des deux peintres en bas, mais des copies faites par Martínez del Manso, qui est un peintre du milieu du XVIIe siècle, d'après ces tableaux-là, dont celui de gauche est représenté que par l'esquisse et pas par le tableau définitif qui a été perdu. On est d'accord ? Bien. Donc, effectivement, ces tableaux ne sont pas des tableaux de Velázquez. Mais est-ce que ça vous étonne ? Non, et pourquoi ça ne vous étonne pas ? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à Velázquez ?
C'était un peintre de cour.
Un de cour, oui, mais qu'est-ce qui est étonnant que dans ce tableau qui s'appelle Les Ménines, il y ait des tableaux qui ne soient pas des tableaux de Velázquez ? Quel est le lien de Velázquez avec la production artistique du temps ?
Ah oui, c'est lui le décorateur en chef.
Voilà, c'est ça. C'est lui le décorateur en chef de Sa Majesté, si j'ose dire. Hein. Donc c'est lui qui a pour but de dire je vais commander un tel tableau, etc. Donc normal qu'ils soient entourés de tableaux qui ne soient pas lui aussi. Hein. Ça pourrait être des tableaux de lui, mais il faut qu'on le voit, ce n'est pas des tableaux de lui. Donc ce n'est pas anormal non plus, puisque c'est en gros le responsable du mobilier national. Bah, il est entouré de tableaux qui ne sont pas que de lui.
Oui,
il fait pas quand même. Pardon ?
Pourquoi des copies ?
Alors ça, à vrai dire, je n'ai pas la réponse. D'autant que les originaux appartenaient déjà aux collections espagnoles. Mais ça, vous savez, ça arrive. On a un tableau qui vous plaît, vous en faites faire des copies pour en mettre ailleurs. Voilà. Alors, ces tableaux, qui sont donc des tableaux qui ne sont pas de Velázquez, mais qui ornent le mur du fond, pourquoi peuvent-ils avoir un intérêt, alors que ce n'est pas des tableaux de Velázquez, qu'ils illustrent, certes, le rôle de Velázquez de grand décorateur des plaisirs royaux, mais quel peut être aussi l'intérêt de les identifier ? Rappelez-vous un peu de choses qu'on a déjà vues. Hein. Donc ce serait ses maîtres. Ce serait une possibilité. Ou ses collègues.
Montrer sa capacité à peindre n'importe quoi.
Ouais.
Parce que là, il a repeint le
tableau. Donc montrer sa capacité dans ses propres tableaux à peindre les tableaux des autres, être capable de le faire. Ouais. Donc c'est une histoire de lien avec ses collègues, pourrait-on dire, c'est une possibilité. Est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre ? Rappelez-vous de ce qu'on a vu dans les séances précédentes.
Ça peut être une signification mythologique ou religieuse.
Hey.
Je ne sais pas identifier ce que veut dire ce
tableau. Oh, mais on va le faire.
Ça peut être ça.
N'ayez crainte. Vous avez raison. Ça vous rappelle quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'on a vu dans les séances précédentes ?
Je recommence. Quand on a travaillé la laitière,
oui.
Où il y avait tout le travail avec se verser soit de l'eau, soit du lait, soit recueillir des choses.
Ouais. Et dans cette séance sur la laitière, qu'est-ce qu'on a remarqué justement souvent chez Vermeer ? Oh, vous n'avez pas regardé le site de l'UTB pour revoir la séance. Ah ben si, pourtant. Rappelez-vous par exemple de la peseuse d'or, de l'allégorie de la foi, par exemple.
Il y a les gestes.
Oui, mais à quoi surtout ?
Il y avait des tableaux, il y avait un tableau dans le tableau.
Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y avait un tableau dans le tableau. Rappelez-vous encore une fois de la peseuse d'or. Hein, il y a un tableau dans le tableau, on voit la peseuse d'or, mais il y a un tableau derrière. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il y a un tableau dans le tableau, comme là, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre encore ?
Il y a la dualité, enfin, ça montre une autre situation que.
Oui ? C'est vraiment une autre situation ?
Non,
ça, derrière la peseuse d'or, qu'est-ce qu'on voyait ? Qu'est-ce qu'on voyait derrière la peseuse d'or ?
La pesée des âmes.
Voilà. Oui. Autrement dit, ce n'est pas du tout une autre situation, c'est la même. C'est-à-dire que quand on regarde le tableau de Vermeer, on comprend ce qui est dit quand on voit le tableau qui est derrière la peseuse d'or. Il y a la peseuse d'or qui pèse derrière, il y a les âmes qui sont pesées. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de jeu de miroir entre le tableau qui est sur le mur et la personne qui est là. C'est la même chose que vous avez là. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, Velázquez ne met pas d'un tableau sur le mur pour faire joli ou pour dire oui, ça c'est mes collègues, je vais parler de mes collègues. Non, c'est pour faire un lien entre le sujet des tableaux qu'il y a sur le mur et le sujet de la peinture lui-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Les tableaux ne sont pas là pour faire joli. Ils ne sont pas là pour dire, voilà, je mets ça parce que ça sera toujours plaisir à mes collègues. Non.
Oui, mais je ne vois pas ce qui représente ces tableaux-là.
Ah, mais attendez, on va le voir. Alors, allons-y. Voyons ce qu'il représente. Voilà le tableau de gauche. Qu'est-ce que représente ce tableau ?
Un massacre.
Un châtiment. Un massacre. Un massacre. Décrivez ce que vous voyez.
L'autorité.
Un personnage avec
une lame.
Oui. Donc un personnage avec une arme qui est en train de massacrer, menacer une femme qui est au sol. Bien. Donc au premier plan, on voit un personnage qui avec une lame est en train de menacer une femme qui est au sol. Okay. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ?
Une femme qui tisse.
On voit derrière une femme qui tisse.
Avec son métier et probablement une tapisserie déjà faite. C'est un enlèvement de robe ou quelque chose comme ça.
Alors, effectivement, on voit derrière une femme qui est en train de tisser, une autre qui est là. On a l'impression de voir derrière une tapisserie déjà faite avec peut-être un enlèvement de robe. Très bien.
Il y a aussi une femme au sol et une femme au sol et une femme à droite.
Pardon ? Au fond à droite, c'est le motif qu'il y a sur la tapisserie qui est à droite. Hein, puisque à gauche, on a ce que vous disiez, hein, on a un métier à tapisser avec deux personnes qui y travaillent et devant quelqu'un qui est en train de menacer une femme au sol. Et à droite, on voit une tapisserie sur laquelle semble représenter l'enlèvement d'Europe. Bien. C'est quoi ? Et c'est qui ? C'est vous qui m'avez dit, il faut qu'on sache que c'est. À vous faire le boulot. Ah ! De qui d'abord ? Une scène mythologique, ça c'est sûr.
Donc, c'est pas les parcs.
Pardon ? C'est pas les parcs, ça pourrait effectivement, parce que les parcs, vous savez, il y en a trois, le couple fil, etc. Vous connaissez ça ? Alors c'est vrai que là, il pourrait y en avoir trois, mais qu'est-ce qui se passe avec ce personnage qui arrive et qui est en train d'en tuer une autre ? C'est bizarre. Donc c'est pas les parcs, mais ça pourrait être un film, si j'ose dire. Alors, c'est dommage, parce que vraiment, ça va nous aider à comprendre tout ça. Hein. Ah oui. Ah. Bon, on va regarder l'autre. Ce sera sûrement plus facile. Une idée du peintre ?
Non.
Non. Pénélope ? Ah, Pénélope, voilà encore une grande tapisseuse, pourrait-on dire. Hein. Ah. Pourquoi est-ce qu'elle serait par terre ou derrière ou...
Là, il y en a trois aussi.
Il y a des satyres.
Deux satyres.
Pendant, ils ont des jambes normales.
Oui, ils ont des jambes normales pour des satyres. Ils ont des oreilles de satyres.
Il y en a un qui tend une couronne.
Il y en a un qui tend une couronne. Pardon ?
Est-ce que c'est Orphée ?
Orphée ? Avec sa lyre.
Il y a une lyre. Il y a une lyre à peine visible, mais...
Donc on a Orphée avec la lyre. Donc il va chercher Eurydice aux enfers. Elle est où, Eurydice, là ? Elle n'est pas encore sortie. Donc on a Orphée qui attend que Eurydice sorte des enfers. Ou attend un délai à chercher.
Non, mais pourquoi il est venu mettre une couronne ?
Pourquoi il y a une couronne ? Oui, oh, ben Orphée, il chante bien. Hein.
Oui, Orphée.
Non, ça n'a pas l'air de vous.
Non.
Ça n'a pas l'air de prendre votre histoire. Alors, il y aurait peut-être une autre solution.
Sur un rocher ?
Ouais, sur des rochers.
Oh. Il joue de la flûte de pan.
Il joue de la flûte de pan.
Donc c'est pan, peut-être ?
Ah, pan. Pan, c'est un satyre, ça tombe bien. Il joue la flûte de Pan. Hein. Donc un satyre qui joue la flûte de Pan. Voilà une chose qu'on tient. Et à gauche, un personnage avec une lyre qui pourrait être Orphée. Bien. Pardon ?
Une couronne de laurier ?
Oui, une couronne de laurier qu'on est en train de le couronner. Ça veut dire quoi, ça ?
Qu'il a gagné quelque chose.
Ou qu'il est le meilleur dans sa catégorie.
Celui qui tient la couronne de
laurier
en a lui-même une sur la tête.
Celui qui tient la couronne de
laurier
en a lui-même une sur la tête.
Le personnage de droite a l'air de dire, mais c'est évident.
Oui, il a l'air un peu ennuyé quelque part, non ? Oui. Oui, il a un rictus spécial. Bon, ça vous dit quelque chose, ça ? Bon. Bon, alors vous allez me trouver le nom du peintre. Ah non, bon. Pardon. Rubens. Donc là, on a une œuvre de Rubens. Pas mal, comme idée. Bien, je résume. Là, on aurait une œuvre de Rubens qui montre Orphée, à qui on décerne une couronne, et face à lui, il y a un satyre, Pan, qui joue de la flûte de Pan. Pan, il joue de la flûte de Pan, c'est normal. Ok ? Et puis dans le tableau précédent.
Ils sont liés les deux tableaux.
Pardon ?
Sont-ils liés les deux tableaux ?
Ben, ils sont côte à côte sur le mur. Voilà. Vous allez lire l'histoire, les histoires. Non. Bon, c'est deux histoires mythologiques, hein, ça vous l'aurez compris, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de liaison, non ? D'accord. Toujours pas d'idée pour le peintre ?
Non.
Non ? Toujours pas d'idée pour l'histoire ?
Non.
Bien.
Le tableau, il n'y a que des femmes et l'autre, c'est des hommes.
C'est vrai.
Non.
En êtes-vous si sûr ? En êtes-vous si sûr ? Ah ? Ah ?
Une femme ?
Il n'y a pas que les hommes qui sont violents. Hein.
C'est vrai comme ça. Même les gens. Musclés, là. Même les gens.
Si c'est une femme, c'est qui ?
Ça peut être Athéna.
Pourquoi pas Athéna ? C'est-à-dire Minerve. Ah, là, on tient peut-être quelque chose. Là. Parce qu'Athéna, c'est quand même une déesse costaude. Hein. Elle est baraquée, Athéna. Hein. Ah, d'accord, être Athéna, c'est intéressant, ça. Donc, effectivement, on est avec des femmes d'un côté et des hommes de l'autre. Car c'est bien Athéna. Minerve. Donc, elle est en train de menacer cette pauvre femme au sol. Toujours pas d'idée de la raison ? Je vous l'ai dit ? Bien.
La guerre de Troie. Est-ce que c'est lié avec l'Europe ?
Via Europe.
L'enlèvement par
l'Europe. Il y a l'Europe derrière sur la tapisserie, oui. C'est d'ailleurs quelque chose d'un peu énigmatique, pour tout dire.
Bravo.
Oui, ça ne nous avance pas trop. Ça. Je vous raconte l'histoire.
Oui.
Il y avait jadis une dame qui s'appelait Arachné et qui était une fileuse hors pair et une tisseuse remarquable. Elle tissait comme personne. Ses tapisseries étaient merveilleuses pour moi. Tellement que tout le monde lui disait, écoutez, vraiment, vous êtes la tisseuse de l'homme. Même Minerve, qui est pourtant la déesse des arts, hein, fait moins bien que vous. Vraiment, vous êtes la tisseuse en chef. Quoi. Extraordinaire. On lui disait tellement, au bout d'un moment, elle a fini par le croire. Elle a commencé à trouver qu'elle aussi, vraiment, elle était une remarquable tisseuse. Ce qui fait que Minerve, Athéna, si vous préférez, qui a eu le vent de cette affaire, a trouvé cette vision un petit peu raide. Alors, laissez métamorphosée en une vieille femme, et puis elle est allée dans l'atelier d'Arachné, et elle dit à Arachné, dites donc, il paraît que vous êtes la meilleure des tisseuses, que vraiment ce que vous faites est extraordinaire. Ah ben oui, en effet, c'est pas faux, tout le monde le dit, mais je crois que c'est vrai. Ah bon, et puis la vieille femme, qui est en fait de Minerve, continue en disant, il paraît même que vous tissez mieux que Minerve. Oh ben oui, alors ça c'est sûr, de toute façon, Minerve, c'est pas terrible, la femme, je comme ça, ma sauce. Hein. Et à ce moment-là, évidemment, Minerve reprend sa forme de Minerve, et agresse Arachné, c'est la scène que vous avez devant vous. Elle agresse tellement qu'elle va la tuer. Mais Minerve, après avoir tué Arachné, se dit, oh ben, elle est prise en remords, si vous voulez. Parce que quand elle voit les tapisseries qu'elle est capable de faire, elle se dit, j'ai quand même tué quelqu'un qui est effectivement quand même très très doué. Hein. Alors par compassion, elle va décider, elle qui a tué Arachné, de finalement la transformer en araignée, et depuis Arachné le sel qui tissait sa toile partout. Je suis sûr que chez vous, vous avez Arachné d'ailleurs. Hein. Moi aussi. J'en ai même plusieurs, pour tout vous dire. Voilà, ça, c'est l'histoire d'Arachné. Ça vient des métamorphoses de vide. C'est une des merveilleuses histoires de vide. Hein. Il y en a tellement d'autres. C'est l'histoire d'Arachné.
Et elle est là trois fois, en fait.
Non, en fait, c'est Z, si vous voulez. Hein. C'est les femmes de l'atelier, pour répondre. Hein. D'autant que celui qui a peint cette œuvre, dont vous voyez l'esquisse et dont le tableau définitif, qui devait être proche, est perdu, le peintre, généralement, en question, aime bien mettre pas mal de monde. Je trouve même qu'il n'en a pas mis beaucoup. Là, c'est qui ? Ben, c'est celui que vous avez cité tout à l'heure. C'est Rubens. Ça, c'est une œuvre de Rubens. Et alors, le deuxième ? Le deuxième. Là aussi, vous donnez votre nom au chat ?
Oui.
Ça, c'est l'histoire d'Apollon et Marsyas. En fait, c'est pas Orphée, c'est Apollon. Vous savez, Apollon a également sa lyre. Hein. Alors là, l'histoire est liée à la flûte de Pan. Un jour, Minerve, encore elle, voilà quelque chose qui est relié aux deux tableaux. Hein. Mais Minerve est la déesse des arts avec Apollon, donc c'est pas très étonnant de la trouver là. Minerve, donc, avait une flûte dite de Pan. Mais il se trouve que cette flûte, elle l'aimait pas beaucoup parce que ça lui déformait les joues. C'est Minerve, elle est assez coquette. Hein. Et quand elle jouait de la flûte, il fallait faire des grosses joues. Ouais, ça n'allait pas. Hein. Donc Minerve a essayé de jeter la flûte par terre, sur la terre. Et Vlatipak, un satyre qui passait par là, et qui s'appelle Martial, ça a pris la flûte. Et puis il s'est mis à jouer la flûte. Et très, 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 très bien. Tellement bien. Tout le monde lui disait, ses copains satyres, et puis les ménades, enfin bref, tout le monde, lui disait vraiment, tu joues de la flûte comme ça, hein. Tellement bien que vraiment, Apollon, il a tout qu'à se rhabiller. Hein, parce que franchement, c'est vraiment toi qui joues bien la flûte. Hein. Apollon a eu vent de ça. Il aurait été un peu embêté quand même. Hein. Quoi, lui, le dieu des arts et de la musique, il joue moins bien que ce Martial, qui est un satyre qui vit sur Terre. Ça ne va pas dire aussi. Donc, un concours a été organisé. Un concours en présence du souverain du secteur où le concours a lieu, qui s'appelle Midas. Et donc, près du fleuve Méandre, qui est un fleuve qui court dans ce secteur, en Asie mineure. Et voilà. Et dans ce concours, finalement, c'est Apollon qui a le dernier mot, parce que les muses, qui sont les vraies copines d'Apollon, hein, et qui sont un peu jugées parties, ont fait un bon truc, c'était lui qui jouait mieux de la flûte que Martias. Alors que Midas, lui, le souverain du secteur, a soutenu Martias, et Apollon était tellement mécontent que Midas soutienne Martias qu'il lui a mis des oreilles d'âne. Donc ce que vous voyez à droite, c'est Martias avec les oreilles d'âne. Et le personnage avec ses roseaux sur la tête, c'est plus des arbres aquatiques, c'est le fleuve Méandre, qui est en train de donner la couronne au vainqueur du concours. Et au centre, vous avez Martias. Le problème, c'est qu'Apollon a été tellement mécontent que Martias puisse s'opposer à lui, même si c'est pourtant Apollon qui a gagné le concours, qu'il a décidé, pour le couler le bec, de l'écorcher. Donc il a attaché un arbre, il l'a écorché. Et d'ailleurs, longtemps, on montrait encore dans l'Antiquité, hein, dans un temple d'Asie mineure, la peau de Martias, hein, qui était présentée. Voilà l'histoire d'Apollon et de Martias. Une œuvre de Rubens. En fait, c'est de Jordaens. C'est pas loin. Hein. Jordaens, Rubens, on n'est pas. Et pourquoi est-ce que ces deux œuvres sont placées en haut des Médines?
Pour montrer qu'il ne faut pas être plus haut que le roi.
Alors, que le roi...
Que Dieu...
Voilà, oui, c'est ça. Hein. En tout cas, il ne faut pas être trop, effectivement. Hein. L'idée finalement de ces œuvres, c'est, je dirais, de proposer une certaine modestie. Hein. On a beau être un grand artiste, du calme. Hein. C'est ça que ça veut dire, si vous voulez. Ça peut être pris aussi dans l'autre sens. Hein. Ça peut, parce que ça dit aussi qu'on est un grand artiste. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en mettant ça dans le tableau derrière lui, Velázquez dit à la fois « Oui, je suis modeste, hein, parce que je sais ce qui est arrivé à mes copains Arachné et Martias », mais en même temps, il dit quand même qu'il est un grand artiste. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est un peu à double sens, comme tout le reste du tableau, d'ailleurs. Hein. Ça dit « Oui, il faut rester modeste hein, », mais en même temps, puisque Arachné est la plus grande des tapissières et que Martias est le plus grand des fétistes, ça veut dire que le plus grand des peintres, c'est... Voilà. Hein. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est un peu à double sens, comme l'ensemble du tableau. C'est un tableau avec une sorte de riche ambiguïté qui fait finalement son miel, qui fait son sel. Alors, petit cartel concernant ces deux œuvres. Voilà donc l'œuvre de Rubens. Pallas, vous voyez que c'est l'autre nom d'Athéna ou de Minerve. Hein. Donc Pallas et Arachné, ok. Pardon, j'ai mis 1700, c'est 1600. Hein. Une erreur. Hein. Okay, donc c'est l'esquisse d'un tableau disparu. Et puis là, le tableau de Jordaens, Apollon et Martias. Ok ? Bien. Avant de passer à une nouvelle séquence, je voulais vous montrer quelques tableaux de Velázquez, autres que les Ménines. Et je voudrais que vous me disiez pourquoi je les ai sélectionnés pour vous les montrer. Celui-là, tableau de la relative jeunesse de Velázquez d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je vous montre ce tableau-là ?
Le miroir.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez effectivement, là, dans le fond de la pièce, ce que certains prennent pour un miroir, mais qui n'est pas un miroir, qui est une fenêtre qui donne sur la pièce d'à côté. Mais justement, avec Velázquez, on finit par en perdre son latin. Hein. Il y a tellement des miroirs, des fenêtres, des portes qui s'ouvrent, qui se ferment, des tableaux dans le mur, qu'on ne sait plus où et quoi. C'est-à-dire que là, finalement, cette espèce d'ouverture qu'il y a derrière et qui montre ce qui se passe dans le fond, c'est un peu comme si c'était un miroir qui montre la scène qui aurait en face, un peu le coup des Ménines, si vous voulez. C'est comme si c'était un tableau sur le mur qui est accroché, ou comme un trou dans le mur qui nous montre la scène qu'il y a derrière le mur. Hein. Vous connaissez la scène, là, hein. Elle est marquée, hein. Vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois. Hein. Bien. Autre scène que je voulais vous montrer du même...
Là, c'est un miroir.
Voilà. Et là, le rôle du miroir, c'est quoi ?
Pardon ?
Oui. Oui, effectivement, là aussi, on est dans un tableau de besoin, c'est-à-dire que Velázquez et nous, on l'avait dit de dos, on ne voit pas son visage, et son visage, on ne le voit que par son reflet. C'est le coup des rois tout à l'heure. Vous vous rappelez ? Hein ? On ne les montre pas, on montre le reflet. Alors, finalement, la vérité, c'est quoi ? Elle est où, la vérité ? La peinture, elle est où ? La peinture, elle dit la vérité ou elle ne dit pas la vérité ? Vous voyez, c'est tout ça que ça montre. C'est pas un tableau qui nous montre une femme nue sur un lit. C'est un tableau qui nous montre, qui nous interroge sur la peinture, c'est quoi ? Est-ce que la peinture, elle nous dit la vérité ou pas ? Est-ce que la peinture, elle est faite pour ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'elle est là pour nous montrer le reflet ou pas ? Bref, c'est une sorte de puits sans fond autour de la peinture. Et ça, les fameuses fileuses, las hilanderas de Velázquez. Exactement. Il y a une scène au premier plan, une scène dans le fond, absolument. Donc c'est toujours la même chose. D'ailleurs, dans la scène du fond, vous ne remarquez pas quelque chose ?
Il y a encore un personnage devant la scène.
Oui.
Du dos,
oui.
Robe bleue,
oui.
Qui regarde des tapisseries.
Oui. Effectivement, hein, vous avez là un personnage. Il y en a encore un là, puis il y en a encore une là. Et puis il y a la tapisserie dans le fond. Et cette tapisserie. Un couronnement.
C'est une femme. Mais on dirait qu'il y a un soldat sur la gauche avec
un
casque. Un soldat avec le casque.
C'est forcément un homme.
Mais
si c'était pas Athéna, c'est pas. Vous savez, dans l'Antiquité, hein, des femmes à casque, ouais. C'est Athéna. Hein. Donc c'est peut-être Minerve, c'est peut-être Athéna, c'est peut-être Pallas. Et là. Ah, si c'était Arachné. Tiens, la même scène que tout à l'heure. À vrai dire, les spécialistes en discutent encore. Parce qu'on croit deviner aussi, là à droite, peut-être un taureau. Vous savez, comme dans les mondes d'Europe de la tapisserie tout à l'heure. Vous vous rappelez de ça ? En même temps, c'est pas très évident. De toute façon, on ne comprend pas ce que vient faire Europe dans Arachné. Enfin bref, c'est compliqué. En clair, Velázquez, il y arrive assez bien. Il est en train de nous paumer, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, c'est aussi de brouiller un peu les pistes. Quoi. De faire de cette œuvre, les Ménines, pas un tableau où on regarde, ça présente l'infant, et puis il y a le roi, et puis basta. Mais de faire un tableau qui, encore une fois, parle de la peinture, en fait, un tableau qui n'en finit pas de nous interroger. Parce que la peinture, c'est évidemment une question qui n'en finit pas de nous interroger.
Mais est-ce qu'on sait si lui aussi s'est beaucoup interrogé à l'époque sur le sens de sa peinture ?
Oh oui.
Ah,
absolument.
Ouais. Il faisait aussi.
Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Oui, des peintres comme ça sont des peintres que je qualifierais d'intellectuels. Hein. C'est vraiment des peintres qui doublent leur travail d'une dimension philosophique, quoi. On va dire ça comme ça. Alors, justement, le dernier exercice que j'aimerais faire avec vous. Oui, entre parenthèses, je voulais montrer ça. Une petite parenthèse avant de voir le dernier exercice, justement. Ça, c'est une œuvre de ce fameux Juan Batista Martinez del Mazo. Vous savez, celui qui a fait les copies des œuvres qui sont sur le mur. OK ?
Bon.
Et c'est donc un contemporain de Velázquez, auquel Velázquez a fait des commandes. Hein ? C'est un copain, quoi. Et voilà Marguerite d'Autriche, qui est la petite enfant que vous avez vue tout à l'heure dans les Ménines. Mais là, elle est plus âgée. Entre-temps, on l'a mariée à l'empereur, hein, et la voilà. Hein. Elle est en tenue de deuil parce qu'elle vient de perdre son père, Philippe IV. Voilà. Et, vous, et je voulais vous le montrer parce que vous voyez comment Martinez et Mazzo refait derrière. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, hein. On voit bien là hein, cette espèce de plans dont on ne sait plus où sont les portes, les fenêtres, les peintures, les pas-peintures. Enfin bref, on a la même chose. Une espèce d'abîme. Une chose que l'on retrouve ici. Donc je crois que ce tableau est intéressant au passage. Bon. L'exercice que je voudrais qu'on fasse maintenant dans la demi-heure qui reste, c'est justement autour un peu de ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire vous disiez, mais vraiment, est-ce que Velázquez a été conscient de tout ça? La réponse est oui. Parce que les peintres, en général, hein, sauf peut-être certains peintres, mais justement, qui se font volontairement un point d'honneur, si j'ose dire, à enlever toute idée, voilà, ou parce qu'ils ne les ont pas, c'est possible aussi. Hein, l'art brut, ça existe, par exemple. Mais c'est un autre type d'art, si j'ose dire. Mais généralement, les peintres mettent beaucoup d'éléments philosophiques dans la façon qu'ils ont de peindre, et notamment de se représenter dans la peinture. Et justement, là, je vais vous présenter toute une série de peintures, une dix-douzaine, dans lesquelles le peintre apparaît, mais d'une manière un peu particulière, tout comme on l'a vu avec Velázquez. Et on va essayer de voir, évidemment, qu'est-ce que le peintre nous dit de lui dans les œuvres en question. Prenez ce tableau. En deux secondes, vous avez une idée un peu de la date, et je ne vous demande pas le peintre, hein, ça c'est un peu dur, mais du... est-ce que vous avez une idée de l'école, on va dire, quoi, voilà. Pardon ? Hollandaise, oui. Ouais. Alors là, le peintre, il s'est autoportraituré. Hein, donc là, vous voyez un peintre qui s'est autoportraituré en train de peindre. Bien. Là, qu'est-ce qu'on nous montre finalement ?
L'atelier. Parce qu'il y en a qui broient les couleurs.
Ouais.
Il y a des choses au sol, il y en a qui peint au fond à gauche.
Oui.
Il y a un tableau un peu en mauvais état.
Oui.
Une palette, des.
Tout à fait. C'est-à-dire que là, finalement, ce que nous montre le peintre, c'est lui, mais aussi c'est l'attirail de l'atelier. Il y a un côté peinture ethnographique, ethnologique. Ce qu'on voit là, c'est un atelier. Un atelier, en fait, comment ça se passe? Il nous met quand même aussi un petit indice pour nous montrer aussi, cette fois d'une manière un peu moins platement ethnologique, mais un peu plus problématique, on va dire, qu'est-ce que c'est que la peinture? Quel est le détail qui, dans ce tableau, nous montre une des questions que peut poser la peinture?
Il représente son modèle en pleine campagne.
Oui.
Il n'a pas du tout le modèle et est contre
un... Exactement. Donc la peinture, c'est faux. C'est complètement faux. Il représente un bonhomme qui est assis devant lui, dans une maison, dans la campagne. Donc c'est du toc. C'est faux. La peinture, c'est une illusion. C'est ça que nous dit ce tableau. C'est ce que vous disiez, hein. C'est une sorte de vision, de regard, et ça c'est très hollandais-flamand, hein. De regard ethnographique précis, il y a le broyeur, il y a l'aide derrière, on a l'impression qu'il y a tout ce qu'il faut pour la peinture, hein. Il y a les vieux torchons, enfin tout ce qu'il faut, la palette, tout ce qu'il faut. Donc c'est effectivement une œuvre ethnologique où on nous montre en quelque sorte la gloire ethnographique de la peinture, mais en même temps, on nous montre déjà que la peinture c'est faux, parce que le bonhomme qui est dans un film, là, qui est dans l'intérieur, est présenté là dans un paysage. Absolument. Et ça?
Poussin. Qui est devant ses propres tableaux, ou retourné, ou à gauche, je ne sais plus, le personnage.
Ouais. Donc il y a grand Poussin est là, sublime portrait, à mon avis, hein. Qui montre Poussin, effectivement, devant des tableaux retournés, il y a simplement une petite chose qu'on voit à gauche. Alors, quid?
Je crois qu'il l'a fait quand il était en France.
À
Rome.
Je crois que c'était plutôt des... Je crois qu'il était déjà à Rome. Sauf que ce tableau a très vite été... Beaucoup d'œuvres de Poussin ont été achetées par des Français.
Il est revenu un temps en France, mais très court.
Oui, très court, effectivement. Et là, je ne saurais plus vous dire. Ça se trouverait, hein, mais... Oui.
Alors, les écritures.
Les
choses écrites.
Oui. Il y a effectivement des choses écrites, je ne sais plus très bien quoi, d'ailleurs. Effigie de Nicolas Poussin.
Rome, ça a été fait à Rome. Hein. Romae, Anno, etc. 1650, en tout cas. Donc ça a été fait à Rome. En fait, c'est une signature et puis une localisation. Donc le but, ça, c'est quoi ?
Qu'on puisse identifier que c'est un peintre.
Voilà, donc on voit que c'est un peintre.
Oui, mais ses toiles sont à l'envers.
Mais ses toiles sont à l'envers. Toutes ?
Non, 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 sauf
une. Sauf une. Qui montre quoi ?
Une femme.
Une femme.
Une déesse.
Peut-être, oui. Une femme, la seule chose qui puisse... Qu'est-ce qu'elle a ? Oui, elle a quoi ? Oui, un diadème, je dirais. Un diadème, oui. On voit que ça... Un profil de femme avec un diadème.
Et un paysage au fond.
Il y a un paysage au fond. Et puis une. Alors devant, oui, là, il y a je sais pas, oui, c'est un tapis peut-être, une étoffe. Peut-être une étoffe. Les tableaux sont plus ou moins protégés, peut-être.
Il n'a pas d'outil de peintre.
Non. Non, il a... Une sorte de carton à dessin, là. Hein, vous voyez même le petit lacet qui ferme le carton.
Une bague.
Une bague. Mais cette femme, je reviens dessus, là. Cette femme avec son diadème, on voit une femme, un diadème. Est-ce qu'on voit pas autre chose ?
Mais je crois qu'elle est d'un autre tableau, connu de lui.
Ben. Elle est effectivement, c'est un détail d'un tableau qui est derrière.
Oui, mais de lui-même, de lui.
On peut imaginer que c'est un tableau de lui-même, effectivement. Hein. Il y a un détail que vous ne voyez peut-être pas très bien, mais que quand même on voit.
La porte par l'arrière.
Ah,
je ne
sais pas.
Son premier rang, là.
Ah, il y a des mains.
Mais il y a des mains. Il y a des mains. C'est-à-dire que là, vous voyez... Une main comme ça.
Oui.
Bon, voilà, ma main, c'est la même chose. Et là, vous voyez une main comme ça. En fait, cette femme, elle est embrassée, si j'ose dire. Sans ce bras. Hein. Donc, tous les tableaux sont retournés. Il n'y en a qu'un, on voit 5 cm carrés. Et ça présente cette femme avec deux mains qui, sur les épaules.
La muse de la peinture.
Peut-être. Il y a d'autres solutions ? Une sorte d'amour parfait, inatteignable. Une sorte de concorde. Oui. Pourquoi pas ? Donc le but, c'est quoi ? Ce tableau, finalement, c'est de montrer quoi ?
L'omniprésence du peintre, parce que c'est lui qui tient toute la place.
Celui qui ?
Qui tient toute la place. Sans ouais. Le peintre, il n'y a pas d'œuvre.
Oui, ça peut être ça. Pour tout vous dire, on se pose beaucoup de questions encore. Donc je ne suis pas surpris que vous soyez comme ça un peu. Parce que ce tableau, c'est une sorte d'énigme. C'est un tableau très curieux. Une sorte de sphinx. Poussin est là, qui vous regarde. Un peu... grave, ouais, presque, ouais. Un peu grave. Il est devant plusieurs de tableaux retournés, dont je suppose que ce sont les siens, mais on ne les voit pas. On voit un petit tableau qui présente une femme souriante, elle. Une femme qui est effectivement enlacée par deux bras. Donc il y a quelque chose ici qui évoque effectivement de manière un peu large l'idée de la concorde, de l'amour peut-être, du lien en tout cas. Donc une sorte d'élément qui vient, j'allais dire, un peu contredire le visage un peu sombre du peintre au premier plan. En tout cas, c'est un tableau énigmatique, quoi, qui semble dire que ben, la peinture, ce qui n'est question quand même que de peinture, on a un peintre devant des tableaux. C'est-à-dire que c'est un tableau où il y a même un grand tableau encore dans le fond. Là, pour le coup, il n'y a presque rien d'autre que de la peinture. Hein.
On dirait qu'il veut solder ses affaires.
Ah oui.
Oui, il s'affirme, voilà.
Sans doute, pardon.
Il s'affirme.
Oui, oui, alors c'est effectivement, il y a de ça. C'est rien à côté. Je suis peintre, pardon.
Oui, mais pas seulement, parce ouais. Que derrière, justement, les tableaux sont retournés.
Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une interrogation, comme vous disiez tout à l'heure, sur le sens de la peinture ?
Ben voilà.
Parce qu'on ne les voit pas, les tableaux.
Mais non. Donc, c'est un tableau.
Pourquoi pas ?
Oui, c'est ça. Il y a de ça. C'est un tableau à la fois où le peintre est là, il tient la place, ses tableaux aussi, il est très présent. Ça va donc le peintre, que le peintre avec ses tableaux, pourtant ils sont retournés. Donc finalement, est-ce que... C'est un tableau très ambivalent, un peu... Mais Poussin est un peintre, alors là, super intellectuel. Hein. Donc Poussin, c'est vraiment un artiste qui, quand il fait ça, ne présente pas, lui, devant des tableaux. C'est vraiment un tableau qui, de la même manière que Velázquez tout à l'heure, nous propose, donne pas vraiment de solution, hein, mais nous propose de nous interroger là-dessus. C'est-à-dire, montre finalement que la peinture, c'est pas un joli du coiffeur qu'on met sur un mur, mais est content. Que la peinture, c'est quelque chose qui doit nous faire... Voilà.
Est-ce que ce tableau qui est avec cette femme a été identifié ou...
Alors non, je ne crois pas, justement. Non, à ma connaissance, non. Ouais, non, non. Ça ressemble à plein d'œuvres de Poussin. Hein. Mais a priori, non. J'ai regardé à plusieurs reprises et... Non. Mais c'est vrai qu'on a envie, je pense, à notamment à un Moïse sauvé des eaux, où il y a une femme qui ressemble beaucoup à ça, mais...
Qui a été l'acquéreur de ce tableau ?
Chanteloup.
Ah, c'est un joli nom.
Ouais. Voilà, et c'est un tableau qui est au musée du Louvre. Moi, c'est un de mes tableaux préférés. Alors, pour tout vous dire, je ne vais pas vous raconter ma vie, on va plutôt parler de ça.
C'est Goya.
Goya, absolument. Pourquoi je vous montre ce tableau ? Parce que c'est une cour.
Non, c'est le tableau qui est au-dessus des personnages.
Ah, il y a effectivement des tableaux au-dessus des personnages. Ça nous rappelle quoi, ça ?
Parce qu'on
est là.
Il y a le peintre derrière. Et il y a le peintre derrière. Eh bien oui, regardez. Devant sa toile. Tiens, vous avez là, chez Goya, une sorte de citation de Velázquez, hein, avec les peintures au-dessus. Alors, sauf que là, il nous montre, c'est-à-dire que la cour qui est vous, un instant est passé devant la caméra, c'est-à-dire avant de retourner à sa place, vous voyez ce que je veux dire, hein. Parce que le peintre est en train de peindre la famille royale. Mais pour être sur la photo, il leur demande de bouger, de se mettre là, avant de revenir là pour qu'il puisse vous peindre. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là aussi, faut s'accrocher, hein. Ok ?
Il y a une espèce. Le regard, je trouve que le regard il est attiré par la porte au-dessus, là. Une espèce de.
C'est un cheval.
Voilà. Tiens, vous avez un chevalet qui a un tableau dessus, effectivement.
Vous... ce que j'ai fait.
Oui, voilà. Là, avec Léon, je crois que c'est assez clair. C'est regarder ce que j'ai fait. Hein. Le peintre est là, dans l'atelier. Il montre le tableau. D'ailleurs, ce tableau, c'est quoi ? Qui est sur le chevalet ? Vous reconnaissez ça ? Pardon ? Alors, non, à droite, c'est une petite statuette qui est devant le tableau. Vous parlez de ça ? Voilà. Là, il y a deux statuettes qui sont posées sur une sorte de sellette. Le tableau, c'est ça, hein. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça ? Oh, c'est quelque chose qui orne un monument super célèbre, ça.
Il n'a pas un format...
C'est tout en longueur.
Voilà.
Ça peut représenter qui, ce tableau ?
C'est français.
Ouais. Ouais. Et qui concerne un des monuments les plus célèbres de France.
Versailles.
Versailles. Et quel lieu dans Versailles, le lieu le plus célèbre de Versailles ?
La galerie des glaces.
Et quel endroit dans la galerie des glaces ?
Le plafond.
Le plafond. Voilà. Qui est-ce qui a peint le plafond de la galerie des glaces ?
Charles Lebrun.
Donc là, c'est le portrait de
Charles Lebrun.
Par lui-même ?
Non.
Ça pourrait, hein. Mais c'est pas. C'est par un de ses émules. Mais effectivement, c'est ce que vous disiez, hein, le peintre est montré, donc c'est l'argilière hein, qui a fait ce tableau, mais qui montre donc Charles Lebrun dans son atelier, montrant un de ses chefs-d'œuvre. Hein, voilà. Et c'est comme vous disiez joliment, c'est regardez ce que j'ai fait.
Voilà. Oui, il y a même des reproductions.
Oui.
Parce qu'on voit une gravure
oui.
au-dessous de la peinture.
Ouais. Là, ouais. Mais c'est une gravure d'une autre œuvre de Lebrun, en l'occurrence, les femmes de Darius devant Alexandre. Voilà, un tableau très célèbre de Lebrun. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a en plus tous les attributs des arts hein, qui sont là, en doux fourtoir sur le sol, ça fait toujours bien. Hein. Enfin voilà, qui accumule la gloire de ce génie qu'est le grand. Pardon ? C'est Saint-Luc. Pourquoi Saint-Luc ? Parce qu'il n'a pas la Vierge. D'ailleurs, Saint-Luc, c'est qui ?
Des évangélistes.
Alors, c'est un des évangélistes, hein, qui est accompagné de quoi, d'ailleurs ?
D'un taureau.
D'un taureau. Et Saint-Luc, il est quoi par rapport au peintre ?
Oui.
C'est le saint patron des peintres. Hein. C'est pour ça qu'il y avait à Rome, jadis, enfin, il y a toujours l'académie de Saint-Luc, qui est l'académie des peintres. Saint-Luc, c'est le patron des peintres. Voilà. Et donc, là, vous voyez Saint-Luc peignant la Vierge. Hein, vous disiez qu'il n'a pas la Vierge. Ben là, c'est Saint-Luc qui peint la Vierge. Et l'enfant, après tout. Voilà. Mais encore.
Au fond, il y a une calotte qui a été représentée en Saint-Luc.
Voilà. C'est-à-dire que c'est le peintre qui s'est représenté en Saint-Luc. Puisque Saint-Luc, c'est le patron des peintres. Le peintre qui a peint ça se représente à Saint-Luc, son Saint-Patron. D'accord ? Ah, vous voyez ce côté gigogne là. Vous voyez que souvent ces tableaux avec des peintres dedans sont complexes.
C'était qui,
à votre avis ? Oh non, les peintres le font souvent sans forcément une mégalomanie particulière. Il s'appelle Martin von Heemskerk. Hein. Mais on va le voir tout à l'heure, hein, que je vais vous montrer. Ouais. Bon, ça, vous connaissez. Pourquoi je vous montre ça, là, les épaules adnorfinées de Jan van Eyck ? Pardon ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans le miroir ?
Il y a le peintre.
C'est-à-dire, dans le miroir qui est là, le peintre est représenté. On voit le dos des deux personnages et on voit le peintre qui est devant eux. Donc ça, c'est un tableau illustrissime.
Et le chien a disparu.
Et, pardon ?
Et le chien a disparu.
Oui. Enfin, il est là, mais vous voyez, je veux dire sur le tableau lui-même. Oui, c'est... Mais, sur le miroir, vous voulez dire. Hein. Effectivement. Mais on se demande si... Vous voyez, enfin, c'est effectivement bizarre, ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est tout petit. Alors. Mais effectivement, c'est bizarre.
Oui, il y a du monde.
Il y a du monde.
Un peintre et toute sa famille.
Exactement. C'est le peintre et la famille. C'est la gloire familiale. Ah, il est nombreux. C'est un tableau que vous situeriez dans quel... secteur européen, ça ?
En Europe du Nord.
Europe du Nord, plutôt. Hein. Flandre-Hollande, oui.
Avec la fraise.
Ouais. Avec la fraise, oui. Donc, vous avez raison, c'est le peintre et sa famille. Hein. C'est une sorte de gloire familiale du peintre. Rembrandt, bravo. Donc, un autoportrait de Rembrandt. Qu'est-ce qu'il caractérise ?
Il y a quelqu'un
avec lui. Où est-ce que vous voyez quelqu'un ? On voit un profil un peu coupé quand même. Hein. Pourquoi ça ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et Rembrandt, il se représente comment ?
En pleine lumière.
Oui.
De toute façon, un peu manché, humble.
Oui.
Il est devant un tableau.
Devant un tableau ?
Je ne sais pas, je pose la question parce que je ne vois pas très bien.
Bah, de fait, on ne voit même pas très bien devant l'original.
Il y a comme une ligne noire là qui les sépare.
Oui. Donc ce serait le peintre devant un tableau qui représente un personnage. C'est ça ? Eh ben non ! En fait, le peintre est devant un personnage. Et ça, c'est un vrai personnage. Mais quel est le statut de ce personnage par rapport à Rembrandt ? C'est un modèle. Il est en train de peindre ce personnage. Donc vous voyez que le nez, ou presque, et ce personnage, il a l'air d'être quoi, peut-être ?
Âgé.
Pardon ? Plutôt un personnage âgé. Et Rembrandt, vous le trouvez comment, là ? Le sentiment qui sort de lui, vous avez dit qu'il était un peu voûté. Bon, visiblement, il est un peu âgé.
C'est trivial.
Pardon ?
Rigolard.
Rigolard. Ironique. Et pourquoi ? Il est content. Mais pourquoi il est content ? Pourquoi il est ironique, goguenard, comme ça ?
Parce qu'on
l'a
bien payé.
Oui, sans doute. Mais encore.
Parce qu'il est content de son travail.
Il est content de son travail. Donc il est content, il fait un travail, on va le payer, alors il rigole. Bon. Ben, c'est bien, mais enfin... pour Rembrandt, je trouve ça un petit peu court, vous voyez. Parce que Rembrandt, quand même, c'est Rembrandt. Hein. Donc, il y a peut-être un peu plus d'ampleur. Hein.
Parce que c'est peut-être un personnage très important, et il est fier de faire son portrait.
Ce serait une solution.
Oui, mais il se met en avant. Là.
Il se met en avant. Mais c'est pas ça.
Non, mais non, il n'a pas une attitude fière quand même.
Non, il a été un peu. Il ricane. Ricanant.
Alors, est-ce qu'il fait une caricature ?
Quelque chose de l'ordre un peu de la caricature, oui.
Il y a plus âgé que moi.
Oui, il y a plus âgé que lui.
Il y a pire que moi.
Il y a pire que lui.
C'est un vrai personnage. Oui, c'est pas une allégorie.
Non.
Qui est représentée.
Non, c'est un vrai. Oui. En clair, il est en train de faire le portrait de quelqu'un.
De quelqu'un.
Mais ça vous rappelle quelque chose ? Ça vous dit quelque chose ? Il y a une petite histoire derrière. Que je vous raconte ?
Oui.
Puisque vous insistez. Alors, en fait, c'est l'évocation de l'histoire de Zeuxis. Zeuxis, je vous en ai déjà parlé.
Ah oui.
Zeuxis, c'est un peintre grec mythique, mais qui a existé. Dont on dit, vous savez, je vous en ai déjà parlé une fois dernière, hein, qu'un jour, il avait peint sur une toile des raisins tellement bien que les oiseaux venaient picorer les raisins. Le problème, c'était des raisins. Et un de ses collègues, qui s'appelle Parassus, pour lui faire un bon tour, un jour, a peint sur sa toile avec les raisins des draperies. Le lendemain, Zeuxis vient, voit qu'on a mis une draperie sur son tableau, ce qu'il prend les draperies peintes pour des vraies draperies, et dit, bah, enlevez-moi les draperies, c'est gentil, vous avez protégé mon tableau, mais enlevez-la. Et puis il se rend compte qu'en fait, la draperie, c'est des fausses draperies. Autrement dit, les oiseaux avaient pris ces raisins pour des vrais raisins, mais lui a pris la fausse draperie pour une vraie draperie. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il se trouve que puisqu'il venait d'avoir un prix pour son tableau représentant des raisins, il a décidé finalement de donner le prix à celui qui avait fait la fausse draperie. Parce que lui avait réussi à tromper son maître. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est la première légende de Zeuxis qui est fondamentale. Hein. Quand on a vraiment un appareil pour Vermeer des drapés sur les tableaux, c'est une référence à ça. Donc je sais que c'est le peintre mythique en peinture. Mais il y a une autre histoire. On dit que Zeuxis est mort à la fin de sa vie. Il meurt souvent à la fin de sa vie. En ville. Parce qu'un jour, vient dans son atelier une vieille femme, horrible, très moche, très laide, très bien, et elle lui demande de le peindre. Et alors il se met à rire tellement qu'il s'étouffe. C'est ce que vous avez. C'est-à-dire que. Et alors, c'est une histoire qui est assez énigmatique, mais qui, j'allais dire, travaille toujours cette question de la peinture. Parce que, est-ce qu'il rit parce qu'il se dit, bah oui, mais si je la rends aussi moche qu'elle est, ça va faire une peinture horrible. C'est ridicule. Mais en même temps, si je la change et que je la fais pas moche, bah, c'est pas la vérité. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est une histoire mythique de la peinture. Qui résume en une histoire ce que Velázquez nous disait tout à l'heure, ce que nous disent tous ces peintres, la peinture c'est quoi ? C'est quoi la peinture ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est des tableaux extraordinaires, parce que avec rien, et vous le disiez, on voit presque rien, hein, et même la vieille femme, on voit que le nez et la bouche, hein, avec rien, ça dit des monceaux de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est extravagant. Mais Rembrandt, comme Velázquez, comme Poussin, a oublié d'être bête.
La mort de
Léonard dans les bras de François Ier. Un tableau de. Donc là, alors là, qu'est-ce qu'on nous montre du peintre ?
Sa mort.
Enfin, il ne meurt pas dans une soupente. Il meurt entre les bras de. Du roi. Donc ça montre quoi ? Voilà, c'est ça l'honneur. Hein. Voilà. Comme Velázquez tout à l'heure qui peignait le roi et la reine d'Espagne. Hein. Là, Léonard meurt entre les bras du roi. Hein. Donc là, c'est l'honneur, la gloire, le triomphe. Hein. C'est un peu notre Lebrun tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est une autre manière de montrer le peintre et éventuellement de se montrer en tant que peintre.
C'est un roi.
Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Pour l'instant, on a montré des peintres.
Il y a la palette en bas.
Et voilà ! On voit pas ce que...
On la voit pas bien.
Ah oui. C'est-à-dire, quelquefois, le peintre se montre par un détail. Donc, il peut y avoir, vous voyez, une sorte de modestie picturale. On vous montre là, Louis XIV, il a 10 ans. C'est un enfin, il s'appelle Testelin qui a fait ça. Et pour nous montrer ce grand roi qui va devenir l'un des grands rois de l'univers, le peintre ne fait que poser sa palette. Donc, vous voyez, c'est un peu l'inverse de certains des tableaux. C'est une sorte de... C'est pas le triomphe avec le peintre adulé par le roi. Le peintre est là, mais en quelque sorte, il met un ex voto au pied du roi. C'est une sorte d'humilité. Le peintre, c'est ça aussi.
C'est quand même dans un atelier.
Oui, oui, ben, oui, en tout cas, un lieu où on voit des tas d'objets qui traînassent. Il y a une statue derrière.
Hein?
Oui, il y a une statue.
Néoclassique.
Néoclassique. L'auteur, le grand peintre néoclassique français, David, Jacques-Louis David. Un tableau qui représente quoi?
Un peintre.
Un peintre qui peint quoi?
Un nu.
Qui peint un nu. Le nu, il est où d'ailleurs? Il est voilà. Le peintre, il est devant son chevalet et il peint un nu qui est sur le lit à droite. Ok. Et puis il y en a un autre derrière.
Sous la protection de...
Voilà, sous la protection de.
C'est Apollon.
C'est Apollon.
Avec un casque.
Pardon, avec un casque, oui. Eh ben non.
C'est pas Hermès.
Non plus.
Non, il a pas d'Hermès.
Pour une fois, c'est pas des dieux. C'est des humains. Ce serait qui l'humain à gauche? Ce vainqueur nu, casqué, héroïque.
Hector,
oui. Mais il y a mieux encore. Et plus réel.
Hercule,
ça c'est de la mythologie encore.
Achille,
on retourne dans du pseudo-mytho.
Alexandre.
C'est Alexandre. Alexandre. Alors qu'est-ce qu'il fait Alexandre là?
Il attend que la
pause
soit finie.
Ah oui. Je vois ce que vous voulez dire. Ok. Et pourtant, le peintre, il a une drôle de... d'attitude. Oui. C'est un homme, le peintre. Et pourquoi les bras lui en tombent?
Parce qu'elle est trop belle.
Il est trop belle. Oh, c'est pire que ça. Il se trouve qu'Alexandre a un peintre officiel qui s'appelle Appel. Mais Alexandre a également une maîtresse officielle. Il n'a pas qu'une maîtresse d'ailleurs, mais bref. Et il demande à son peintre de peindre sa maîtresse qui s'appelle Campaspe. Le problème, c'est qu'Appel va tomber amoureux de Campaspe. Ça, ça a l'air mal. C'est toujours cette expression. Mais Alexandre, c'est Alexandre. C'est le grand souverain. Alors il a décidé de céder Campaspe à son peintre. C'est pas bon ça. Héroïque. Voilà encore un de ces grands mythes de l'aventure. Vous voyez, au-dessus du pouvoir politique, il y a l'art. C'est ça que ça veut dire. Le peintre vaut mieux que le conquérant. Et voilà. Et là...
Une famille encore.
Et le peintre, tout à fait dans le fond, là-bas à droite. Vous le voyez là? C'est une œuvre qui est de... D'où ça? Vous mettriez ça dans quel secteur, dans quel pays? Espagne, absolument. Et d'ailleurs, c'est une œuvre de Juan Bautista Martinez del Mazo, le copain. Vous savez? Celui à qui ont été commandées les copies qui sont dans le fond des Ménines. Ok? Et vous voyez dans un tableau comme ça, une sorte là aussi d'écho quelque part des Ménines. Avec d'ailleurs le portrait de Philippe IV, là. Un peu comme le miroir, enfin bref. Ah oui, c'est connu, ça. Chardin. Et ça représente quoi? Un singe. Peintre. Et ça dit quoi? Pardon? Ben voilà. Clairement, les peintres sont des singes. De la dérision. Donc, vous voyez, à travers ce petit choix d'une douzaine d'œuvres, alors je vais vous passer maintenant
les cartels, hein. Ça c'est David Ricquert, un tableau au musée des Beaux-Arts de Dijon, d'ailleurs très belle œuvre. L'auteur portrait Nicolas Poussin, le tableau de Goya, hein, la famille de Charles IV, le tableau de l'argilier Figuerand Lebrun, le tableau de Heemskerk, Saint-Luc peignant la Vierge, celui de Van Eyck, Arnolfini, bien sûr, le grand tableau de Otto Weinius, le peintre et sa famille, l'autoportrait de Rembrandt Xeuxis, le tableau de Ingres, la mort de Léonard, et le tableau de Testelin, Louis XIV à 10 ans. Voilà Alexandre Appel et Campaspe, et donc la famille de Juan Bautista Martinez del Mazo, et le singe-peintre de Chardin. Alors, je ne vous laisserai pas partir sans la séquence que vous attendez tous, c'est-à-dire comment est-ce que les Ménines ont pu être réinterprétés à la sauce, puisque c'est un des tableaux les plus célèbres du monde, forcément. Un certain nombre de gens en ont fait des reprises. Picasso, Picasso a fait toute une série de... Il y a à Barcelone un musée où il y a la totalité des Ménines d'après Picasso, dont ça. Mais il y a d'autres choses. Playmobil, encore une fois, hein. Comme la litière de Vermeer, hein. Playmobil, ils ont compris le coup. Hein. Alors, il y a aussi les selfies, vous savez, on a vu avec la litière la dernière fois, voilà un selfie coréen, hein, qui vous montre, à la manière coréenne, les Ménines. Hein. Intéressant. Il y a des choses un peu plus décapantes. Hein. Voilà un artiste photographe, ça s'appelle Rancinant, qui reprend, vous le voyez, et là, il reprend les Ménines d'une manière un peu... spécial, nous dirons. J'aime beaucoup, moi, ça. Qui montre, évidemment, une vision un peu plus enfantine avec l'infante qui est en train de faire du... Elle s'envolait. Je trouve ça assez drôle. J'arrive pas à ne pas rire en voyant ça. Puis alors, il y a le côté plus destroy, vous voyez. Hein, c'est quand même pas mal. Et là, je vous ai choisi un petit geste. On pourrait passer la nuit là-dessus. Hein. En tout cas, tout ça montre une fois de plus l'extraordinaire notoriété d'œuvres comme celle-là. Voilà, et ben bravo. Merci. Préparez-vous, parce que la prochaine fois, c'est la dernière. Hein. Ouais. On va la rassurer.